franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets sont dans les Alpes-Maritimes cette semaine. Une remarque personnelle concernant ce département. Les premiers passages des carnets furent un petit peu laborieux à alimenter par rapport à d'autres départements. Il y a plein d'explications. Peut-être qu'on a un grand nombre d'initiatives que dans d'autres lieux ou d'autres régions, ou une certaine frilosité. Et maintenant, les Alpes-Maritimes nous envoient de bonnes ondes riches, sociales, culturelles, inventives. Elles sont urbaines ou rurales. En voici deux nouvelles illustrations. Tout d'abord, avec les Ouvreurs, une association qui a su s'insérer dans les milieux éducatifs et culturels malgré des résistances courantes contre ce qu'elle promeut, à savoir les droits des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans. Les Ouvreurs, c'est entre autres un festival de cinéma gay et lesbien qui s'est déroulé très récemment à Nice, et c'est là-bas que nous rejoindrons et que nous allons rejoindre Benoît Arnulf, coordinateur de l'association. Ensuite, nous donnerons la parole à Nathalie Masseglia, fondatrice d'une des premières amacas de France, celle de la Roya. Comme dans les autres régions, cette amaca se destine au maintien des alternatives en matière de culture et de création artistique. Pour faire court, la MACA pourrait ressembler à une AMAP culturelle, avec toutefois des nuances que nous préciserons tout à l'heure.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Benoît Arnulf, bonjour.
Bonjour.
Benoît, coordinateur de l'association Les Ouvreurs, qui sensibilise aux droits LGBT, la fédération des lesbiennes, gays, bi, trans de France. Beaucoup de pays sont entrés dans ce mouvement pour faire valoir des droits et surtout donner plus de visibilité à leurs adhérents et leurs acteurs. C'est vos parents qui nous ont écrit pour dire que vous avez créé cette association en 2009.
C'est tout à fait ça, mais c'est important que vous disiez, parler de mes parents, parce que j'œuvre dans la vie de tous les jours justement à la sensibilisation, à la lutte contre les discriminations, et je sais rencontrer beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles qui n'ont pas eu cette chance, et le fait d'avoir autour de soi des proches ou de la famille qui comprend dans une situation qui est pas simple hein, pour les individus d'apprendre qu'on est différent des autres, de la majorité, à un âge qui est un âge compliqué, l'adolescence. Et moi, cette force-là, j'ai envie de la redonner aussi. C'est peut-être un peu aussi un de mes moteurs militants, mais mes parents, ils ont été vraiment très importants pour moi de ce point de vue-là.
Est-ce que le terme est juste de parler de différence ?
On est tous différents. Je pense qu'il n'est pas question de gommer les différences. Moi, je suis un fervent défenseur des différences et de la diversité. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait du respect, mais dans un concept qu'il faut qu'on entende et qu'on comprenne.
Benoît, est-ce que le souhait d'une association comme la vôtre, comme d'autres d'ailleurs, n'est-il pas de passer de la différence à l'indifférence ?
Bien sûr, l'indifférence, c'est dans l'idée de pouvoir laisser les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Mais comme je vous l'ai dit, il faut qu'on puisse tous se retrouver là où on est et qui on est. En annonçant, prenez le mot de tolérance, moi, c'est un beau mot, hein, mais la tolérance, on sent que c'est vraiment le premier stade, hein, c'est-à-dire tu es en face de moi, je peux pas faire autrement que de te tolérer. Nous défendons l'idée de l'acceptation, c'est-à-dire de comprendre pourquoi l'autre est ce qu'il est, et puis surtout de faire un travail sur soi, en disant finalement c'est peut-être dans le problème qui va se poser entre nous, c'est peut-être moi qui pose problème, parce que c'est moi qui ai du mal à accepter la différence que j'ai en face de moi et que je n'arrive pas à comprendre.
Oui. Alors, il y a une actualité récente qui a certainement, malgré son caractère complètement dramatique, ouvert les esprits, c'est l'assassinat du policier sur les Champs-Élysées, Xavier Jugelet. On en a beaucoup parlé, mais surtout on a rappelé qu'il était militant LGBT. Et on se dit, dans la police, oui aussi, il y a des personnes gays.
dans la police et partout ailleurs. Et ce qui est questionnant, disons que c'est FLAG, l'association pour laquelle il militait, finalement, par rapport à ce qu'on disait à l'instant, c'est pourquoi devrait-il y avoir des associations qui militent pour la visibilité des homosexuels dans ces corps de métier, mais comme dans plein d'autres corps de métier, c'est de dire qu'à un moment donné, oui, il faut que nous revendiquions notre existence. Pas pour avoir un statut particulier ou pour avoir être privilégié, non, juste pour dire, oui, dans la police, il y a des homosexuels qui doivent avoir le droit de pouvoir vivre leur vie de couple, de pouvoir parler à leurs collègues de leur orientation en toute simplicité, c'est-à-dire d'être soi-même. Mmh. Et c'est vrai qu'on a été très touchés à double titre, parce que c'était un policier qui était là pour nous sécuriser et pour nous défendre, et parce qu'aussi il s'agissait d'un militant que j'aurais pu rencontrer dans une manifestation ou dans une formation, parce qu'il est important, on va dire, de rendre visible. C'est ce qu'on peut faire aussi dans le cadre du festival qui anime nos activités, oui. In and Out. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Pourquoi est-ce que vous organisez un festival de films gays et lesbiens? Tout simplement pour dire cette cinématographie-là, elle existe, ces thématiques-là, elles existent, et rendre visible en soi, déjà, c'est un acte politique fort. Mmh.
Oui. Une petite note, vous parliez des interventions en milieu scolaire, collège et lycée. Vous êtes agréé par le rectorat, c'est pas un signe d'une avancée, ça?
Bien entendu, le fait d'avoir eu cet agrément, on sensibilise entre 3000 et 4000 élèves par an. On a beaucoup de jeunes qui sont encore, très déroutés par ces questions, voire certains qui sont violemment opposés à toutes ces questions-là, mais on a aussi une très grande majorité de jeunes qui sont de plus en plus ouverts. Donc on voit que l'institution accompagne aussi ce mouvement, et que les mentalités qu'on pourrait croire peut-être fermées à un âge où c'est compliqué de se différencier, eh bien, c'est pas aussi clair. Mais on a aussi noté qu'il y avait encore un extrêmement grand nombre de violences qui peuvent être perpétrées. Et le phénomène du bouc émissaire est un phénomène qui joue beaucoup avec des jeunes homos, des jeunes trans qui peuvent en être les victimes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous très vigilants pour leur permettre de pouvoir avoir une vie, une éducation égale à tous les autres.
Voilà, le festival In & Out, l'intervention milieu scolaire, la formation pour les adultes et puis des préventions aussi, entre autres au sein du collectif 06 contre le sida. Le site lesouvreurs.com pour l'adresse, il n'y a rien de plus simple. Merci Benoît.
Merci beaucoup.
Un mot sur le Broc. Oui, on prononce le C, le Broc, dont le blason, cette commune, dont le blason est un bro, là on ne prononce pas le C, un bro d'eau. Le Broc, donc commune de la métropole Nice-Côte d'Azur, compte 1400 habitants et 220 élèves à son école de musique. C'est sans aucun doute un record en France. C'est Elvia, notre correspondante, qui nous annonce les 20 ans de cette école. Les Arts d'Azur, Elvia Briggen est coordinatrice de cette école, pour ainsi dire unique, 14 profs, musiciens professionnels, une gamme de formation digne d'un conservatoire, une classe même de musique électroacoustique. En 2012, l'école de musique intégrait de nouveaux locaux qui sont une sorte de complexe culturel rare pour une commune aussi modeste. Salle de spectacle de 400 places, une médiathèque, la fameuse école et même une crèche communale. Comment cela est-il possible en cette commune? Elvia donne plusieurs pistes. Des profs enthousiastes, solidaires, une commune qui pense la culture comme nécessité au point d'y consacrer le quart de son budget, et un public qui couvre toutes les catégories d'âge. Bien avant la création de l'école de musique en 97, il y avait déjà eu l'émergence d'un atelier d'art plastique en 92, poussé par la municipalité. Pour le plaisir de la coordinatrice de l'école, Elvia, donc plusieurs élèves du Broc, ont intégré des conservatoires supérieurs de musique à Paris, à Bruxelles ou à Munich. Les Arts d'Azur.net, bravo à eux. On reste dans les activités culturelles et artistiques avec notre seconde correspondante, Nathalie Masseglia. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nathalie, fondatrice de l'AMACA de la Roya. On aime bien les AMACAs, ce sont les associations pour le maintien des alternatives en matière de culture et de création artistique, ça fait penser aux AMAP. Sauf que le principe n'est pas tout à fait le même, on va expliquer, mais vous êtes quand même dans la région phare des AMACAs, puisque la première a été lancée par Olivier Lanoé à La Ciotat.
Oui, tout à fait. Il y a à peu près 4 ans de cela, oui. Donc on est dans le sud-est. La Roya, c'est donc une partie de la France sur l'extrême sud-est, en pleine montagne.
Oui, et frontalière avec l'Italie.
Tout à fait. On, la vallée est donc à moitié italienne, à moitié française.
L'AMACA fonctionne comment alors?
Alors c'est un système de micro-mécénat. Et donc, ce sont des citoyens qui financent un projet de programmation de spectacles vivants qui se veut divers et varié dans la création contemporaine.
Ouais. Mais comment fait-on, Nathalie, quand on est dans un espace rural comme le vôtre, ça veut dire peu de d'habitants, pour trouver ce micro-mécénat suffisamment en abondance quand même pour gérer des spectacles?
Déjà, on n'a pas de maximum de spectacles, mais on a à peu près 4 spectacles par an, ce qui n'est pas non plus une programmation très fréquente, mais on en est fiers. Et on est 5000 en tout, dans la vallée française et italienne, parce qu'on ne fait pas la différence.
Oui.
Ce qui est quand même pas tout à fait petit, hein. 5000 personnes qui donneraient 10 euros par mois, ça pourrait faire une sacrée somme. Mmh. Et puis, il y a des micro-mécènes qui viennent de tout le reste de la France. On a même en Belgique, voilà, qui soutiennent en donnant un petit peu d'argent et qui ne sont pas forcément des usagers des spectacles dans la Roya, mais qui sont mécènes.
Bah alors justement, comment se constitue ce mécénat? Un auditeur qui nous entend dit « c'est drôlement bien, il faut défendre ces actions culturelles dans des espaces ruraux, et en plus de ça, c'est nous qui sommes un peu les décideurs de cette programmation, on y participe pleinement. » On fait comment? On prend un abonnement? Ça se présente sous quelle forme?
Non, c'est donc on a commencé par un bouche à oreille, de village à village, on est allé rencontrer les gens. On a organisé des rencontres, des réunions publiques, on a rencontré des élus. Et petit à petit, on a constitué une enveloppe. Ça nous a pris 2 ans.
Oui.
Mais et au bout de 2 ans, on a pu monter une année de programmation.
Mais concrètement, ça veut dire, en tant que mécène, micro-mécène, je donne 50 euros chaque année, par exemple?
Voilà, vous pouvez aller de 50 euros à 8000 euros par mois, hein, pas de souci.
Oui.
Le montant est libre.
Quand vous dites par mois, ça veut dire qu'il y a une mensualité?
Oui. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais on a des micro-mécènes qui donnent de l'argent tous les mois.
Y a une chose intéressante, donc, comme je disais, c'est que le comité de programmation, ce sont des villageois.
Voilà, c'est des villageois, donc il y a une dizaine de personnes qui viennent de différents villages, mais pas que, il y a aussi une mentonnaise. Voilà, on essaye de proposer à donc ce comité de programmation des dossiers artistiques qui tiennent la route, donc des professionnels. Il y a un petit cahier des charges pour pas que les artistes viennent cachetonner, comme on dit, dans le milieu, mais qu'il y ait quand même une rencontre. Et c'est ce comité de programmation étudie la faisabilité, parce que nous n'avons pas de théâtre dans notre vallée.
Oui.
Voilà, donc on doit monter des scènes de A à Z.
Mais monter des scènes, vous avez quand même le matériel? Vous avez un parc de matériel ou tout est fait vraiment alors, un petit peu en fonction des situations?
Alors on a des compagnies de théâtre qui nous prêtent du matériel et puis on a la région aussi. Il y a un parc régional sur Saint-Laurent-du-Var, donc on descend chercher notre matériel. Mais on a beaucoup de compagnies qui nous aident, locales.
Alors ça donne 3 à 4 spectacles par an, financés grâce à ce micro-mécénat. Mm-hmm. Il y a des résidences artistes, alors les artistes viennent travailler, présenter leur travail au fur et à mesure aux villageois, d'ailleurs ils sont logés chez l'habitant, et ils travaillent, vous dites, on n'a pas de salle, mais vous avez une ancienne chapelle.
Oui, c'est ça, chaque village a un lieu atypique à proposer à des artistes. Par exemple, à Breil-sur-Roya, il y a une ancienne chapelle désacralisée. Il y a aussi des salles municipales. Il y a eu une résidence qui s'est passée dans un ancien fort à Sospel.
Oui. Et puis, indépendamment des résidences, donc, il y a aussi des interventions de chercheurs, d'invités, des conférences.
Oui. Voilà.
Bravo, la MACA de la Roya. Vous allez trouver le lien à nos pages d'émission et puis une idée des programmations et des rendez-vous et initiatives qui sont prises grâce à cette association pour le maintien des alternatives en matière de culture et de création artistique. Il faut qu'il y en ait de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de demandes et de besoins.
Tout à fait.
Merci Nathalie.
Merci beaucoup.
Demain, nous allons découvrir une épicerie sociale, un restaurant solidaire, une salle de spectacle dans une crypte d'église à Nice. Et puis nous irons à Grasse pour rejoindre la coopérative Tetris, tiers-lieu de la transition écologique. Je rappelle qu'au mois de juin, nous, je dis tous les jours, mais c'est bien de le répéter, que nous traverserons la Manche, enfin le département, pas encore la Manche, le Calvados, l'Eure, le Bas-Rhin et la Meurthe-et-Moselle. Merci de nous écrire depuis ces départements pour nous transmettre les bonnes nouvelles.